Véronique Tiberghien.
Laurent Daube.
Et oui, vous le savez maintenant, dans toute autre chose, une fois par mois, vous retrouverez Laurent Daube qui nous prépare des dossiers environnement, technologie. Les deux ne sont pas toujours incompatibles et c'est ce que nous essayons de voir dans cette émission. Les nouvelles technologies développées peuvent-elles être nuisibles à l'environnement, à la santé de l'homme? Ce sont des questions que l'on se pose avec Laurent. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Vous allez bien?
Mais très très bien. Un petit peu enrhumé.
Ah oui, quand même.
Mais oui, c'était ce matin entre 4 et 6.
Avec un sujet délicat aujourd'hui.
Avec un sujet délicat dont nous allons parler dans quelques instants avec nos invités et qui concerne ce que l'on appelle vulgairement dans le public, si on peut dire, les ondes GSM, mais cela regroupe une problématique plus vaste. Alors que l'on utilise les téléphones mobiles depuis une dizaine d'années maintenant, on peut effectivement se poser la question, et on verra qu'elle n'est pas infondée, de savoir quelles sont les implications des ondes sur notre santé et quels sont les risques que nous encourons au jour le jour, et sans parler d'autres technologies sans fil telles que le Wi-Fi qui commence aussi à prendre de l'ampleur chez nous.
Alors vous le verrez, nous n'avons pas invité d'opérateur GSM dans cette émission, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de faire un débat dans cette émission, mais de vous donner un maximum d'informations possibles pour vous faire votre propre opinion et pourquoi pas aller plus loin dans la recherche d'informations et voir qu'il y a effectivement des scientifiques qui se posent des questions et qui se penchent sur ces questions. Bref, pas d'opérateur GSM parce que pas de débat, donc nous n'aurons pas non plus l'occasion d'alimenter un débat dans cette émission, et c'est tant mieux, sinon l'information risquerait de ne pas passer au mieux. Bref, jusqu'à 11h30, vous avez quand même l'opportunité de poser des questions, d'apporter des témoignages, et de vous poser des questions au 02 737 26 06 02 737 26 06 ou par courriel tout autre chose @rtbf.be. Un message par SMS également au 3051. On se retrouve avec les invités de Laurent juste après ceci. Ça fait plaisir de retrouver Dorian avec les filles que j'aime. Il est 10h14, vous êtes à l'écoute de la première. Tout autre chose aujourd'hui, et comme nous le faisons et comme nous le ferons encore une fois par mois, nous accueillons Laurent Daube, Laurent qui se spécialise dans les sujets qui ont un lien entre les nouvelles technologies, l'environnement et la santé, en se posant des questions de savoir si les uns et les autres ne sont pas parfois un peu incompatibles. Nous en parlons aujourd'hui en parlant des ondes GSM. Vous le disiez, Laurent, on parle des ondes GSM dans le public, mais c'est un gros package en fait, hein.
Oui, c'est un gros package. C'est vrai qu'on a titré cette émission Antenne GSM, quel danger pour notre santé, mais ça regroupe une problématique qui est bien plus vaste, comme je le disais il y a quelques instants, notamment tout ce qui concerne le Wi-Fi qui est très à la mode pour l'instant. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que pour le grand public, cela concerne d'abord effectivement le GSM, ces téléphones mobiles qui existent maintenant depuis donc une dizaine d'années, qui font partie intégrante des moyens de télécommunications modernes. Il faut savoir que dans certaines régions du monde, ils constituent le moyen le plus fiable et parfois même unique de communication. Et ailleurs, ils connaissent un grand succès parce qu'ils permettent évidemment de communiquer à tout moment sans nuire à la liberté de mouvement. Parfois un peu ennuisant au cadre quand ça sonne dans un restaurant, c'est jamais très agréable. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas le propos de l'émission. Alors, dans de nombreux pays, la moitié de la population se sert déjà de ces appareils. Il faut savoir que on prévoit qu'à la fin de cette année, on comptera 1,6 milliard d'abonnés au GSM dans le monde. Et donc, à cause de cette évolution, il a fallu évidemment installer un nombre croissant d'antennes, de stations de base pour les téléphones mobiles. Celles-ci sont constituées d'une antenne radio de faible énergie qui communique avec les appareils des utilisateurs. Et bien, par exemple, sachez qu'au début 2000, on comptait 20 000 antennes, 20 000 stations de base qui fonctionnaient rien qu'au Royaume-Uni, et 82 000 sites aux États-Unis, avec chacun de ces sites qui comportait une ou plusieurs stations de base. Alors en Belgique, eh bien, le parc des antennes GSM à l'heure actuelle est estimé à quelques 6 500 antennes, et à l'aube de l'arrivée de nouvelles technologies, on en parlera tout à l'heure, telles que l'UMTS, eh bien, on prévoit encore une augmentation du nombre de ces antennes d'environ un tiers. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir quel impact a l'installation de ces antennes, quel impact a l'utilisation du GSM dans notre vie quotidienne sur la santé. sur la santé publique. Et pour ce faire, eh bien, on va en parler avec nos invités que vous allez peut-être présenter.
Oui, vous nous avez amené Jean Delcoigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la SBL, Tesla Bell. C'est une association qui lutte contre les nuisances électromagnétiques et l'implantation de pylônes à haute tension, ainsi que les antennes d'émission à très haute fréquence à proximité de l'habitat. Vous allez pouvoir nous parler de cette association, bien sûr. André Van der Voort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Faculté des sciences appliquées à l'UCL. Vous avez créé en 1966 le laboratoire d'hyperfréquence, dont les activités de recherche sont centrées sur la méthodologie de conception des circuits et l'évaluation d'effets électromagnétiques, notamment atmosphériques, sur les systèmes de télécommunication aux ondes centimétriques et millimétriques, ainsi que sur le bioélectromagnétisme micro-ondes, en particulier à propos du système nerveux. Vous étiez venu dans cette émission pour nous parler des champs électromagnétiques et des effets que cela pouvait avoir pour la santé. Et on s'était dit d'ailleurs à cette occasion qu'il faudra refaire une émission sur à chaque fois les éléments précis qui avaient été soulevés dans cette émission. On a parlé micro-ondes, etc. Donc aujourd'hui, ce sera pour les GSM. Jean-Marie Danse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes licencié en sciences chimiques, consultant scientifique et technique en biophysique, et vous êtes l'auteur de plusieurs publications consacrées notamment à la problématique de la pollution par les ondes électromagnétiques. Alors, il faut peut-être un petit peu expliquer ce que c'est ce package qu'on appelle ondes GSM. On parle de radiofréquence.
Oui, alors donc effectivement, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être focus sur de manière plus générale sur ce que sont les radiofréquences. Peut-être André Van der Voort, nous situer dans quel cadre est-ce qu'on travaille ici pour bien savoir de quoi on parle après.
C'est vraiment une question de nomenclature, évidemment. Pour pas mal de monde, lorsqu'ils utilisent le mot micro-ondes, ça veut dire un four de cuisine.
Oui.
Dans ce contexte-ci, évidemment, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de fréquences micro-ondes. Les micro-ondes sont la gamme de fréquences, la famille de fréquences, disons, qui est un peu plus élevée que celle des radiofréquences proprement dites. Et donc le GSM, le premier qui est à 900 MHz, c'est à peu près à la jointure entre ce qu'on appelle les radiofréquences proprement dites et les micro-ondes. Les radiofréquences commencent à... Ce qu'on utilise comme radiofréquence en traitement médical, notamment en chirurgie, c'est aux environs de... C'est moins de 1 MHz, on appelle ça déjà des radiofréquences. Donc ici, je crois qu'on est plus dans le domaine des micro-ondes, des fréquences micro-ondes, que dans le domaine des radiofréquences.
Donc c'est une famille de fréquences,
c'est bien ça. Les fréquences micro-ondes, c'est une famille de fréquences. Ça va à peu près de 100 MHz, ce qu'on a mis aujourd'hui. Ça inclut donc la radio FM, fréquence modulée. Et ça va jusqu'à des fréquences très élevées, c'est-à-dire supérieures à 100 ou même 300 GHz. Donc c'est une gamme de fréquences très élevées qui comprend des bandes de télévision, la bande de radio FM, qu'elle soit numérique ou non, les deux bandes GSM, le Wi-Fi intérieur, les systèmes DECT, donc de téléphone portable intérieur, déplaçable en tout cas, tout ce qui est radar, protection automobile, tout ça fait partie de l'ensemble des fréquences micro-ondes.
Alors au sein de cette famille de fréquences, il y a encore, je dirais, des caractéristiques différentes. On ne peut pas nécessairement en tout point comparer des ondes radio. On a parlé notamment de la FM avec les ondes GSM par exemple.
Non, je crois que si, toujours pour mettre de l'ordre, disons, avant de commencer, je crois qu'une fois qu'on... Il faut savoir à quelle fréquence on travaille, et de quelle gamme de fréquences il s'agit, ça c'est une chose. Une deuxième chose, c'est de savoir quel est le type de signal qui est véhiculé par ces ondes. Et assez clairement distinguer des signaux que l'on appelle analogiques, ce qui veut dire qu'ils varient de façon relativement sage et douce en fonction du temps, d'une part, et d'autre part des signaux numériques qui, eux, sont susceptibles de varier très rapidement en un très bref intervalle de temps, ce qui n'est pas du tout le cas des analogiques. Et du point de vue de l'effet éventuel sur la santé, il faut vraiment distinguer les deux signaux en plus de la fréquence porteuse à laquelle on travaille.
Très bien, donc dans le cadre des GSM, on travaille évidemment dans des variations de type numérique.
Absolument.
Voilà.
Le GSM, les Wi-Fi, ce qu'on appelle les Wi-Fi, les DECT systèmes intérieurs, on introduit la télévision numérique, on a commencé à introduire la fréquence modulée numérique, on va, me semble-t-il, de toute évidence, vers un système qui de plus en plus utilisera des signaux numériques.
Jean-Marie Danse.
Oui, il ne faut pas oublier que ces fréquences en impulsion, n'importe qui peut les entendre. Vous approchez d'un poste de télévision avec un GSM en fonction et vous entendez une espèce de son qui est tatac, 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 oui, tatac. Oui. C'est cette modulation.
On connaît bien en radio.
Ce sont oui. ces impulsions basse fréquence, oui, quand vous êtes dans un studio de radio avec quelqu'un GSM en fonction, vous l'entendez. Mm-hmm. Ça, c'est ce qui permet, je crois, aux gens d'approcher cette notion de modulation, c'est-à-dire les signaux qui sont sur la fréquence porteuse. Et ces signaux sont hachés. C'est là la définition du signal digital. Il est haché, ce sont vraiment des impulsions.
Donc ce que vous expliquiez tout à l'heure, tac-tac, tac-tac, tac-tac...
Qui sont probablement beaucoup plus nocifs pour la santé que les ondes très lentes. Ne nions pas, sur la santé, il y a eu des expériences qui ont été faites chez des gens qui habitaient près des émetteurs de télévision. Il y a des choses qui se passent là aussi. Mais ces fréquences hachées, ces fréquences pulsées sont nettement plus embêtantes.
André, pour ajouter une précision peut-être, il me semble qu'en ce qui concerne les signaux de type analogique, qui donc varient de façon lente en fonction du temps, il y a une espèce de consensus à considérer que l'effet que ces signaux-là ont sur la santé, que ces effets étaient mesurés ou qu'ils soient potentiels, que ces effets-là sont de type, en gros, thermique, c'est-à-dire dû à une puissance à laquelle on est soumis. En ce qui concerne les signaux de type numérique, qui effectivement subissent des variations très rapides en fonction du temps, sans aucun doute, on peut se poser la question à nouveau d'un effet dû à une puissance absorbée, mais en plus, il y a sans aucun doute lieu de se demander si ce type de signal n'est pas susceptible de fournir des effets supplémentaires qui ne sont plus des effets de puissance, mais je crois qu'il faut utiliser le mot, qui sont des effets de champ. Par exemple, de champ électrique variable rapidement.
Donc effectivement, on y arrive. L'influence dans le domaine de radiofréquence des champs électromagnétiques sur les organismes vivants. Donc deux types, vous venez de le dire, on peut les classer en deux grandes catégories, les effets thermiques et effets non thermiques. On peut peut-être revenir rapidement, qu'est-ce que les effets thermiques ça...
Jean-Marie
Danse. Les effets thermiques, lorsque vous soumettez un liquide aqueux, donc un liquide qui contient de l'eau, à des hyperfréquences, donc à des micro-ondes, c'est ce qui se passe dans un four, eh bien, vous avez un effet d'échauffement par le frottement des molécules d'eau les unes sur les autres et par les chocs moléculaires entre les molécules d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique. Ça ne se passe qu'à un certain niveau de puissance. Il faut arriver, comme un four à micro-ondes, vous avez 750 watts au minimum. Vous avez donc un niveau de puissance beaucoup plus important que celui d'un téléphone mobile. Heureusement pour nous, sinon on cuirait comme une pizza. Et puis, plus bas, alors, vous avez des effets. Moi, je préfère le mot interférence. C'est-à-dire qu'on va avoir, si vous voulez, notre cerveau fonctionne à un niveau électrique. Et ce niveau électrique, nous pouvons l'objectiver par des électroencéphalogrammes. Et ce sont des très basses fréquences. Ce niveau électrique, vous avez les ondes alpha, les ondes delta, les ondes theta, etc., suivant l'occupation ou suivant l'affectation de votre corps au moment où on le saisit. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir des interférences entre les basses fréquences, impulsions, qui sont modulées sur les hautes fréquences, et les fréquences du cerveau. C'est ça, je crois que c'est un des domaines principaux de recherche actuellement, qui va engendrer toute une série d'effets en cascade sur l'ensemble de l'organisme.
Donc, à aucun moment, on ne peut affirmer que les ondes... Excusez-moi si je les appelle encore les ondes GSM, mais comme ça, je me comprends aussi... que les ondes GSM n'ont pas d'effet du tout quand ils traversent un être vivant.
Non. Et le problème,
il y a un effet.
Non, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'attitude de l'OMS. Je vais rompre une lance, il faut bien, mais l'attitude de l'OMS rejette pratiquement systématiquement toutes les études en milieu universitaire qui sont faites en Suède, aux États-Unis et partout, toutes les études qui parlent d'effets non thermiques.
Sur base de quoi ?
On les écarte d'office, en disant que c'est peut-être pas reproductible. Il faut dire que ces effets non thermiques sont difficilement reproductibles. Ce ne sont pas des effets faciles à reproduire, puisqu'on est dans des niveaux de champ, donc d'influence qui sont extrêmement bas. Et là, on peut avoir des effets d'erreur, hein. Ça peut exister. Mais certaines universités, maintenant, travaillent en toute rigueur, et certains chercheurs travaillent vraiment avec une rigueur, je vais dire, expérimentale qu'on ne peut pas critiquer, et l'OMS, paradoxalement, rejette ces études.
Alors, effectivement, parlons un peu de ces études qui sont de plus en plus nombreuses. Depuis quand s'intéresse-t-on vraiment à ce type de phénomène dans les milieux universitaires ?
Très tard, parce que je m'étonne d'ailleurs qu'on ait mis sur le marché, ça c'est une chose qui me rend un peu... qui me met un peu en boule, c'est qu'on a mis sur le marché une technologie, et puis après que cette technologie ait été mise sur le marché, on a décidé qu'on allait faire des recherches. C'est un peu tard, et en plus, ces recherches sont loin d'avoir abouti, ces recherches sont en cours. Et on ne peut pas dire qu'on a abouti à des recherches définitives. Donc on se sert finalement, comme le professeur Salford de l'université de Lund en Suède le dit, on se sert de la population comme d'éléments expérimentaux, donc de cobayes de laboratoire. C'est un peu grave ça.
Je crois qu'on peut ajouter que si on se préoccupe par exemple, exclusivement même de cancer, pour qu'un cancer soit stimulé par une source extérieure neuve par rapport à celle qui existe. Mm-hmm. Et ce n'est pas toujours facile de savoir si effectivement un nombre de cancers est en augmentation dû à une raison particulière se superposant à toute une série d'autres raisons existantes. Si on s'intéresse à cela, pour qu'un cancer apparaisse et soit mesurable, il faut au moins 10 ans, probablement 15 et peut-être 20. Le GSM a été introduit le 1er janvier 1994. À ce moment-là, il a été introduit. Il s'est vraiment très répandu dans les années, probablement quelque chose comme 98, 99, où tout à coup on a eu une espèce de flambée d'utilisation. Si vous ajoutez 15 ans à ça, à partir de 98, 99, on se retrouve à peu près en 2015. Nous sommes en 2005. Donc dire aujourd'hui que des études sont en cours et que dans 3 ans, on sera probablement beaucoup mieux. Si c'est dangereux ou pas dangereux, c'est largement tromper le public, parce que dans 3 ans, on saura quelque chose de plus, mais pas grand-chose. Il faudra vraiment attendre jusqu'en, disons, 2015, pour savoir si, effectivement, il y a tel type d'effet ou non. Je suis de ceux qui estiment qu'on lance une partie significative de l'humanité, entre 1 et 2 milliards d'individus, dans une étude épidémiologique colossale dont on va voir quels sont les résultats. Et on ne va probablement pas ou guère parler de normes aujourd'hui, mais lorsqu'on parle de normes, je pense qu'il faut tenir présent à l'esprit le fait que protéger à l'égard d'un effet connu est une chose, et il y a une série de choses que nous ne connaissons pas encore, et en tout cas pas bien, mais protéger la population dans une situation où on ne sait précisément pas s'il y a effet ou non, ça, je crois, est une question tout à fait actuelle et à laquelle, personnellement, je trouve qu'on manque grandement de prudence.
Est-ce que ça veut dire qu'on est, au fond, dans une phase de totale incertitude et que les gens qui ont besoin aussi d'avoir des réponses ne se posent peut-être pas les bonnes questions, à savoir, il ne faut pas peut-être se poser aujourd'hui la question de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais, mais si tout le monde travaille de concert pour essayer de répondre à ces questions?
Je ne crois pas qu'on est dans une situation de totale incertitude. Mes collègues savent que je m'exprime toujours de façon prudente. Oui. On sait des choses. Il me semble que ce qu'on sait est peut-être bien que pour la majeure partie des gens qui constituent une population, les effets, en tout cas, n'apparaissent pas rapidement et que donc s'il y a effet, ce sera à long terme. Ça me paraît relativement clair. Il existe toutefois une part significative de la population. Nous sommes, en fait, l'homme, les êtres humains, nous sommes des animaux stochastiques. Donc c'est statistique ce que nous ressentons. L'un ressent quelque chose, l'autre ne le ressent pas. Et donc dans la population, il y a de toute évidence, j'ai en relation avec une trentaine d'entre eux maintenant, des personnes qui disent être beaucoup plus sensibles que la moyenne, qu'on appelle ça électrosensible ou hypersensible, peu importe. Je trouve qu'un certain nombre d'entre eux ont aujourd'hui ce qu'on pourrait vraiment appeler une vie tiens, sans qu'on ne voit du tout, ce qui peut, à terme relativement court, se produire, qui leur facilite l'existence. Nous en sommes, moi j'en suis à conseiller, laboratoire universitaire, etc., des tissus qui sont des tissus contenant des fils métalliques, à recommander de placer du papier d'aluminium de cuisine parce que ça coûte pas cher, c'est facile à mettre, etc. On en est quand même à ce stade-là pour une petite partie de la population, disons, avec l'impression que j'ai personnellement, c'est que chez certains, le dispositif, lorsqu'il s'enclenche, est cumulatif et s'accélère. Autrement dit, que quelqu'un de plus sensible que la moyenne le devient de plus en plus.
Et donc, deux mots par rapport justement à ces personnes dites électrosensibles. Quelles sont les manifestations qui caractérisent ces personnes de quoi souffrent-elles concrètement?
Mais je crois qu'en ce qui concerne les effets connus d'ailleurs des micro-ondes, il faut tenir compte de deux éléments. L'un, ce serait des effets, un peu comme Jean-Marie Danse venait de le dire tout à l'heure, des effets d'interférence. L'organisme vivant, et en particulier nous, êtres humains, nous avons une bioélectricité intérieure qui est absolument considérable. Une impulsion nerveuse, c'est un signal électrique qui se promène. Mm-hmm. Il ne faut pas l'oublier. Donc on est plein d'électricité partout. C'est la chose évidemment la plus difficile à étudier. Ce qui est plus facile, et il y a des constatations, je trouve, qui mettent cela en évidence, c'est que nous parlons de micro-ondes, vous parlez de GSM, il s'agit donc d'une certaine catégorie, d'une certaine famille de fréquences. On sait que ces fréquences n'existent pas à l'intérieur de tout le corps humain. Elles sont blindées par ce qu'on appelle depuis quelque chose comme 100 ans la profondeur de peau. Et à 900 MHz, la profondeur de peau dans le corps humain, c'est 1,5 cm. Et si vous en prenez 3, ce qui fait près de 5 cm, disons, la puissance à cet endroit-là ne vaut plus qu'à peu près 1% de ce qu'elle est à la surface. Autrement dit, la série d'effets dont nous parlons, probablement une série d'effets qui interagissent avec ce qui se trouve grosso modo en surface, une surface quand même un peu épaisse, hein, 5 cm.
Oui.
Et donc, on a là toute une série de senseurs qui nous permettent de détecter la température, le son, 36 000 choses. Nous avons aussi une probabilité donc d'avoir ce qu'on pourrait appeler des effets de peau s'il y a une source extérieure, par exemple électromagnétique. Et effectivement, moi j'ai constaté sur plusieurs personnes qu'il y a effectivement des effets qui se manifeste au niveau, disons, cutané, la peau. Ça se voit, avec des choses qui se voient, qui se sentent.
Ça se voit quoi? C'est un vieillissement prématuré des cellules? C'est une brûlure?
Ça gratte, une série de choses comme ça. Ça cause quelque chose qui ressemble à de l'eczéma.
Oui.
Et donc tout ça sont des effets cutanés qui me paraissent plus faciles à évaluer et à comprendre à cause des micro-ondes et de leur effet. Surtout à la surface, si vous voulez, c'est plus facile à comprendre que des effets intérieurs qui sont vraiment plus difficiles à étudier.
Est-ce que l'on est électrosensible ou bien est-ce que l'on peut devenir électrosensible?
Comme une allergie
C'est ça, voilà, à un moment donné.
J'ai travaillé pendant un certain temps avec le professeur Schmitt, dont j'ai traduit d'ailleurs tous les travaux et les livres. Le professeur Smith de l'université de Salford, qui a travaillé en collaboration avec le professeur William Rhea de l'université du Texas à Dallas. Ils ont étudié sur tous les grands allergiques. C'est-à-dire que le professeur Smith s'était rendu compte qu'il y avait des gens qui perturbaient son laboratoire d'électrophysique. Chaque fois que des gens rentraient dans son laboratoire, il y avait des appareils qui se perturbaient. Il s'est demandé d'où ça venait. Il a fait une étude rapide là-dessus. Et il s'est rendu compte que ces gens étaient des grands allergiques. Alors il s'est dit, mais s'ils perturbent les appareils, peut-être sont-ils réceptifs à certaines ondes électromagnétiques. Et il a étudié la sensibilité de ces gens aux ondes électromagnétiques. Et il s'est aperçu que la majorité de ces gens qui étaient allergiques à des produits chimiques devenaient allergiques à la longue à des ondes électromagnétiques. William Rhea a vérifié cela, il l'a d'ailleurs publié à plusieurs reprises, il en a écrit des livres. Et c'est, si vous voulez, presque une constante. Quand je vois des gens qui sont électrosensibles, je questionne. Et vous vous rendez compte que ces gens, avant d'être électrosensibles, étaient allergiques. Et on parle maintenant de sensibilité allergique multiple aux États-Unis. C'est un syndrome. Cette sensibilité allergique multiple est une sensibilité aux produits chimiques d'abord, mais elle est dédoublée et on voit apparaître la sensibilité électromagnétique là-dessus. Et je vais sortir d'ici peu la traduction d'un livre suédois à propos des ordinateurs. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons aujourd'hui, mais il faut quand même en parler. C'est les produits chimiques qui sont dégagés par les ordinateurs, qui sont projetés par le champ électrostatique sur le visage de la personne, qui vont rendre cette personne allergique à une série de substances dont les phénols, les polyphénols qui sont polyphénols bromés qui sont des retardateurs de flamme. Et ces gens vont devenir électrosensibles. Et ils vont même devenir sensibles à la lumière au point qu'ils ne pourront plus sortir dans une zone éclairée normale. Ils doivent changer leur éclairage intérieur, etc. Donc c'est une sensibilité allergique multiple et qui est dédoublée par une allergie électromagnétique.
On ne peut donc pas nier les gens qui se disent électrosensibles. On ne peut pas les regarder comme s'ils étaient des gens à demi fous. Ce sont des gens qui ressentent quelque chose. On ne peut pas nier leur douleur ou leur mal-être quelque part.
Il y en a qui sont des gens vraiment électrosensibles, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui, pour moi, ne sont pas électrosensibles et s'estiment l'être. Ça, c'est le délicat du problème.
Vous savez, dans notre civilisation, vous avez de tout. Vous avez des gens qui se côtoient et ils entendent parler le voisin et des gens lisent un dictionnaire médical et ils commencent à se trouver toutes les maladies. Mais oui, c'est la même chose.
C'est moi ça. Oh,
ça, c'est un peu le problème. Mais le danger de cette électrosensibilité, ça j'insiste là-dessus, c'est qu'elle est mal connue des médecins classiques. Les médecins qui pratiquent la médecine normale ne reconnaissent pas cette allergie. Et je connais des sensibilités électromagnétiques qui sont dans des instituts psychiatriques et qui n'ont rien, qui sont sous un juge de tutelle, c'est-à-dire qu'on leur a mis un juge de tutelle parce que la famille a écouté les conseils du médecin et n'a rien compris dans la maladie.
Donc excès dans un sens, excès dans l'autre.
Absolument.
Aussi, d'où une information
J'ai une amie qui est apteuse, elle est devenue une amie par la force des choses parce que j'ai essayé de l'aider. Maintenant j'ai eu des contacts avec le juge, mais c'est très compliqué. Maintenant le juge vient finalement de lui dire, oui, vous êtes une malade physique, vous n'êtes pas une malade psychique. Il a mis 2 ans pour dire ça, mais ça fait 2 ans qu'elle est dans l'institut psychiatrique. Et elle a dit au juge, c'est très bien, maintenant je vais sortir. Où vais-je aller? Je suis électrosensible, où vais-je aller? Il y a des antennes partout. Elle l'a déménagé par épisode en s'éloignant le plus possible des antennes, mais maintenant, à moins de vivre au milieu d'un bois, il n'y a plus de possibilité. Ou dans une caravane au milieu d'un bois.
André Van der Voorst?
En fait, ce qui rend difficile, je trouve, l'évaluation de l'électrosensibilité, c'est que on n'a jusqu'à présent aucun résultat, si vous voulez, qui mette en évidence, pour l'ensemble des gens qui se disent, se déclarent hypersensibles, à tort ou à raison, je suis du même avis que Jean-Marie Danse, sans aucun doute, oui, pour un certain nombre, ça me paraît évident. En fait, nous n'avons pas de résultat qui montre une courbe du genre relation de cause à effet.
Oui.
Et une société d'électrosensibilité en Suède, une association, a fait des mesures, elle compte plus de 2000 membres si je ne me trompe, on n'est toujours pas arrivé à avoir une relation, ce qui rassurerait beaucoup de monde et notamment des médecins. Je suppose qu'on aura bien ça un jour, on ne sait pas trop quels paramètres aller chercher, faut-il le dire. Je crois aussi, enfin il me semble qu'il y a une espèce de consensus aujourd'hui pour dire que c'est multifactoriel. Enfin moi, j'ai travaillé en électromagnétisme toute ma vie professionnelle, je ne vois aucune raison pour laquelle il pourrait y avoir des réactions d'un organisme vivant, disons d'un être humain, à des niveaux de champ parfois aussi faibles. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Moi, je ne vois vraiment pas de quoi il peut s'agir, sauf s'il s'agit là d'un stimulus qui, superposé à un autre stimulus ou à une autre classe de stimuli, crée effectivement un effet exacerbé.
Sujet intéressant qu'il faudrait approfondir effectivement, et j'imagine que je l'espère au moins que les études en la matière se font aussi. On va peut-être clôturer là le sujet des...
Vous permettez d'ajouter point qui va toujours dans le même sens, c'est qu'on a fait des mesures, en fait c'était sur des singes, des cornées de singes, en leur les soumettant, des yeux de singes donc, il y a déjà 10 ou 15 ans, en les soumettant à un champ micro-ondes, la gamme de fréquences dont nous parlons. Pas un signal de type GSM, simplement une onde simple, si vous voulez. En fait, on a constaté qu'il se produisait des dommages à la cornée à un certain niveau d'absorption, donc à un certain niveau de puissance absorbée. On a alors fait d'autres essais, répandu sur la cornée de singes de la même famille un médicament qui contenait des opioïdes, mais on a de quatre classes différentes. Bon. Et on a constaté que le même dégât à la cornée était présent à un niveau d'exposition 10 fois plus faible. Depuis, à ma connaissance, on n'a pas continué à chercher ça. Pourtant, il y a quand même une piste intéressante. Si par hasard, quelqu'un se déclare hypersensible et arrive chez un médecin et dit, et le médecin lui demande, vous êtes évidemment stressé, oui bien sûr, donc on va vous donner un antistress. Et si par hasard, cet antistress augmente la sensibilité aux micro-ondes d'une manière que nous ne connaissons pas, on est parti dans un cercle qui est vraiment vicieux. Et je suspecte
très bien... Et à contrario, s'il y a un élément dans le médicament qui sera donné, quel qu'il soit, qui favorise la baisse de la sensibilité, on dira, bah oui, moi j'avais raison, c'était de la dépression ou du stress, et donc ça n'avait rien à voir avec l'électrosensibilité. D'accord. On va clôturer là, malheureusement, si vous le voulez bien, parce qu'on pourra encore en dire bien des choses, le sujet de l'électrosensibilité pour passer aussi à d'autres sujets. On va parler notamment des normes, bien sûr, puisqu'en matière de GSM, eh bien, il y a des études qui se font, il y a des normes aussi pour essayer de limiter les fréquences, mais nous verrons de quoi elles sont faites, ces normes, aujourd'hui ici en Belgique, en compagnie de nos invités. Et puis vous êtes nombreux déjà à nous signaler ce livre, donc je vous le signale aussi, nous allons passer un extrait de l'émission Tête à Tête. Martine Cornil recevait Rufus, qui nous parlait de son livre « Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas ». Donc ça sera dans la suite de cette émission, juste après Philippe Lafontaine.
Tout autre chose, at rtbf.be.
Des bonbons, je m'en vais content. Des bœufs, bonbons. Et d'ordi qu'on y était.
Philippe Lafontaine avec Bibi Desbreilles. Il est 10h45, vous êtes à l'écoute de Tout autre chose. Nous parlons des ondes GSM, entre guillemets, puisque vous l'aurez compris maintenant, en parlant d'ondes GSM, on parle de beaucoup de choses en réalité et de tout un package sur lequel on peut revenir. Nous en parlons pour parler des effets sur la santé. Nous allons revenir bien sûr sur l'idée des normes, et pour y revenir, eh bien, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Tête à Tête. Martine Cornil recevait Rufus à l'occasion de la sortie de son roman Méchant, c'est ainsi qu'il est intitulé, Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas. En fait, dans ce roman, eh bien, il s'agit d'une fiction qui est basée sur un fait réel dont Rufus a été le témoin. Il s'agit du décès d'enfants dans une école, et ce fait lui a permis d'étudier toute une série de phénomènes autour de l'utilisation des GSM. Ce qu'il a découvert lors de cette étude l'a beaucoup surpris et l'a beaucoup choqué aussi. Il a donc choisi d'en faire un roman et non un pamphlet. D'ailleurs, il s'en explique très bien au micro de Martine Cornil.
D'abord, il ne faudrait pas imaginer que ce livre est un pamphlet contre la téléphonie mobile. Il s'agit bien d'un roman, il s'agit d'un thriller, on y rit beaucoup. Et il n'y a pas, c'est pas manichéen, c'est pas on ne peut plus téléphoner avec nos GSM ou nos portables. Parce que ce que vous dites aussi, et donc j'imagine que vous êtes très bien documenté, c'est qu'en fait, si ces antennes étaient de moindre puissance, d'une part, les téléphones fonctionnent tout à fait bien.
Oui.
Et d'autre part, là, il y a de fait, apparemment, aucun problème pour la santé publique.
Mais non.
Alors pourquoi ? Alors la question, évidemment, qui arrive juste après, il ne faut pas manier l'absurde comme vous pour la poser, tout le monde se la pose, mais alors si ça fonctionne aussi avec, disons, n'importe quoi, 1 volt, pourquoi est-ce qu'on les pousse à 200 volts?
Effectivement, il y a un rapport européen qui a été mis au point avec 1 volt, ça s'appelle le rapport Tamino, un des docteurs s'appelle le docteur Lerus, je le connais. Ils ont déterminé que quand il y a 1 volt dans l'atmosphère, le corps humain s'en tire.
Pas,
voilà.
Ouais.
Donc il y a à peu près 0,4 volts qui sont fournis par l'électricité ambiante, enfin toutes les machines, etc. Et si on pouvait accepter de baisser le seuil de la téléphonie mobile à 0,6 volts, au total on aurait 1 volt, ça suffit, ça marcherait. Et ça marche dans certains pays. Et puis les portables sont pas incriminés dans l'histoire. Les portables, vous savez, c'est comme un couteau de cuisine, un portable, vous faites attention, vous le mettez pas dans les mains d'un enfant, et puis quand vous vous en servez, vous arrangez pour pas vous couper, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a 2-3 précautions d'emploi qui devraient être connues, qui sont simples. On téléphone pas quand on circule, par exemple, vous voyez, parce que le téléphone, il cherche la balise tout le temps, et pendant qu'il cherche la balise, il peut monter très très haut. Alors vous le mettez à votre oreille que lorsqu'il a trouvé la balise, mais quand vous marchez, il cherche tout le temps la balise. Donc vous voyez, faut pas le viser en marchant, faut pas le viser en voiture, etc. Et puis surtout, et ça les Anglais l'ont compris, pas de téléphone portable pour les moins de 8 ans.
Mm-hmm.
Ça, c'est absolument rédhibitoire.
Or, on voit de plus en plus de très jeunes enfants qui ont leur téléphone portable.
Oui, parce que bizarrement, on en fabrique pour eux. Alors, c'est assez dingue, ça. Oui.
Mmh. Ouais. Il vient de sortir, ce livre. Enfin, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, hein, quoi.
Il y a un mois. Oui, il y a un mois.
Alors, quel écho a-t-il eu en France, ce livre, La Rufus?
Il y a eu un très très bel article de Michel Pollack, qui est un des plus grands critiques littéraires que nous avons en France. C'est le seul.
Un seul article, oui.
Mais vous comprenez, les journaux ne peuvent pas parler de ça.
Oui, mais vous vous appelez Rufus.
Ah oui, mais ça fait rien.
Et vous mettez votre nom à, justement, je veux dire, c'est pas par hasard.
Oui, mais ce sujet est inabordable.
Mm-hmm. Vous citez nommément des gens dans Si Dieu meurt, je ne survivrai pas, même si vous dites qu'il s'agit d'un roman méchant. Vous citez notamment Jospin. Vous dites que le dernier acte qu'il a posé avant de se retirer, on ne sait où, enfin maintenant il écrit un bouquin aussi, c'est de justement signer quelque chose qui qui laissait finalement la, enfin,
oui, alors,
dérouler un tapis rouge pour les opérateurs, quoi.
C'est ça. Le dernier jour de son mandat, le 3 mai 2002, juste avant de partir entre les deux tours, quand il a su qu'il a été battu par
Le Pen.
Il a donc signé ce décret, on ne sait pas pourquoi. Donc, mais le fait est que ce décret autorise 61 volts par mètre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que préconise le rapport Tamino, les expertises européennes, c'est 0,6 volts. Donc, ça veut dire qu'il autorise 100 fois plus que ce que le corps humain peut supporter. Ce qui est hallucinant, on se demande pourquoi. Et il oublie, alors c'est ça, il aurait dû marquer sur le décret en rouge, en gros, 61 volts, oui, mais pendant 60 secondes. Et c'est pas écrit.
Jusque-là, vous nous parlez de la France et seulement de la France, parce qu'il y a d'autres pays d'Europe où effectivement les législations sont beaucoup plus dures et où il n'y a pas de problème.
Bon, écoutez, par exemple, je sais qu'en Hollande, il y a un rapport qui s'appelle le rapport TNO, où on a fait la preuve, et c'est un document officiel de l'État, on a fait la preuve qu'au-delà de 0,7 volts, c'est-à-dire en dessous de 1, bien sûr, le corps humain commence à souffrir. Et ils ont fait, sur des volontaires, ces essais, en ne disant pas aux gens exactement ce qu'ils leur envoyaient ou ce qu'ils leur envoyaient pas. C'était... Donc voilà, la Hollande, elle a pris des positions déjà beaucoup plus claires. Il y a l'Angleterre qui a donc décidé que pas de portable pour les enfants de moins de 8 ans,
près des conseillers
pour les moins de 15 ans. Et pas de GSM à moins de 300 mètres d'une école, d'une maison pour personnes âgées. Parce que ça touche les gens qui sont à risque. Vous voyez, qu'est-ce que c'est le risque? Ben, vous êtes un enfant, vous avez plus de risques. Vous êtes une femme enceinte, vous avez plus de risques. Vous êtes un homme âgé ou une femme âgée, vous avez plus... C'est comme la canicule.
Oui, c'est des organismes plus fragiles.
Ouais, c'est ça, voilà.
C'est comme la grippe.
Retrouvez l'émission Tête à Tête avec Martine Cornil dès 14h sur La Première. Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas. C'est écrit donc par Rufus. C'est paru aux éditions Larganier. Et c'est un roman méchant, vous l'avez entendu. Rufus ne fait pas un pamphlet contre la téléphonie mobile, loin de là. Il préconise surtout et essentiellement une utilisation raisonnée de son GSM, avec parfois mais des éléments de bon sens, tout simplement des éléments de bon sens certainement très très oubliés ces derniers temps. L'actualité nous l'aura montré avec l'utilisation que l'on fait des GSM aujourd'hui, cela fait un petit peu peur. Alors, je voulais poser une question, d'abord si vous me le permettez bien, si tu me le permets, Laurent d'ailleurs,
oui,
André Van der Voorst, on parle ici de 0,6 volts par mètre, de quoi parle-t-on pour que l'on puisse comprendre ce que sont les normes en général? Volts par mètre, c'est quoi en fait? C'est l'émission d'une antenne, c'est ça, ou c'est l'émission du GSM? De quoi s'agit-il?
Bon, des volts par mètre, c'est l'unité par laquelle on caractérise l'intensité du champ électrique. C'est tout. Le champ dans une pièce peut être un champ de température. Il existe des températures en tout point de la pièce. Dans cette pièce, on appellera ça le champ de température. Il peut exister aussi dans cette pièce un champ électrique, par exemple, et d'autres. Le champ électrique est mesuré en volts par mètre. À la différence de la température, le champ électrique, lui, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Il a une direction. Il a donc une amplitude et une certaine direction. Et donc, dans un endroit d'une pièce, il peut se diriger dans une certaine direction, et à un autre endroit de la même pièce, avoir la même amplitude, la même intensité, si on veut, mais être dirigé dans la direction opposée, ce qui n'est pas possible pour une température. Les volts par mètre, c'est simplement un champ électrique. Je voudrais tout de même, à cette occasion, toujours, enfin, là aussi pour mettre un peu les choses en ordre, quand même bien préciser à l'égard du grand public, que quand on dit 0,6 ou 1 ou 3 ou 60, honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il faut préciser à quelle fréquence, de quelle fréquence il s'agit, le même effet biologique éventuel pourrait être imposé par des valeurs de champ électrique qui ne sont pas les mêmes aux diverses fréquences. Ça, il faut en tenir compte. Une deuxième chose dont il faut tenir compte lorsqu'on parle d'une valeur de champ électrique, Rufus y fait d'ailleurs allusion, c'est pendant combien de temps? La dosimétrie, c'est, en simplifiant les choses, le produit d'une certaine intensité à laquelle on est soumis de n'importe quoi, par la durée de cette exposition, il faut le savoir aussi. Et alors lorsqu'on parle de vol par mètre, à cet égard-là, j'ai trouvé que le commentaire qu'en faisait Rufus était léger. Par exemple, de 0,6, disons à un vol par mètre, dire que c'est un vol par mètre à ne pas dépasser à aucun moment de la journée, jamais.
D'accord.
ou dire que c'est un vol par mètre dont la valeur qui ne peut pas être dépassée en tant que valeur moyenne sur 24 heures, c'est pas du tout la même chose. Alors pour tout le monde, c'est commode de n'avoir qu'un seul chiffre quand on parle de normes. Je crois qu'il est sage, quand on parle de vol par mètre, de se mettre d'accord et de ne parler que des vols par mètre. Ah, par exemple, 900 MHz, la fréquence de la première fréquence GSM. Et il faut savoir si on dit que c'est pendant 60 secondes, moyenne sur 24 heures, ou une valeur à ne dépasser jamais.
Oui.
Alors, quand Rufus dit 0,6 vol par mètre, ça fait un effet sur le corps humain, ça, pour moi, c'est une affirmation tout à fait légère.
D'accord.
À laquelle, personnellement, je n'adhère pas, parce que c'est vraiment plus complexe que ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de normes, on tient véritablement compte de tous les éléments que vous venez de nous citer, auxquels il faudrait peut-être ajouter aussi le fait qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adulte ou d'une personne plus âgée? Est-ce qu'on tient compte de ça quand
Si vous lisez bien tous les textes, il me semble qu'honnêtement, il faut répondre oui. Mmh. En pratique, quand on prend l'arrêté belge, dont je trouve personnellement qu'il est vraiment trop laxiste, si on prend l'arrêté belge, lire les quatre pages de cet arrêté royal ne fait pas partie des lectures normales.
C'est indigé. C'est totalement indigé.
Et pourtant, cet arrêté, comme l'OMS par exemple, les recommandations de l'OMS, ne fait état que d'une seule valeur, qui est du champ électrique, parce que se demander s'il faut imposer une valeur identique pour, par exemple, un champ de télévision à telle fréquence, ou par exemple un champ GSM pulsé, numérisé, à telle autre fréquence, on peut se poser la question et décider qu'il ne faut évidemment pas parler de la même valeur. En pratique, ça rend les choses encore plus complexes. Et on est donc à peu près condamné, je crois, à utiliser une valeur. Il est important de savoir que cette valeur doit être précisée quant à la signification qu'on lui donne. Et notamment, alors, parlons adulte, enfant, si vous voulez. Le point de départ de tout ça, c'est un texte de l'OMS qui date de 1993, qui est apparu dans un livre édité par l'OMS à ce moment-là, qui date donc de travaux antérieurs. Le GSM a été introduit le 1er janvier 1994, et ce texte de l'OMS, qui conditionne tout le reste, ne tenait pas compte de l'existence du GSM.
Je vous propose d'y revenir, oui, tout à fait, après les informations de 11h. Donc retenez bien votre fil de pensée, M. Van Orvos, et on y revient juste après les informations de 11h présentées par Delphine Simon, et puis avec vos questions aussi au 02 737 26 06 avec Laurent Daube et ses invités.
IMG, voir clair, c'est déjà avancé.
Minutes exactement, l'heure de poursuivre l'émission Tout autre chose. Aujourd'hui, Véronique Tibérien et Laurent Daube nous parlent des téléphones portables et de leurs ondes notamment.
Et oui, soyez bien à l'écoute, Delphine. Merci, bonne matinée. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Au revoir. Bienvenue à vous dans cette deuxième partie d'émission. Nous parlons aujourd'hui des ondes GSM, vous le savez, avec nos invités. Jean Delcoigne de la SBL Tesla Bell, pardon, je n'arriverai pas à le dire du premier coup. Jean-Marie Danse, licencié en sciences chimiques, et André Van Der Voos, qui est professeur émérite à la faculté des sciences appliquées de l'UCL. Nous en parlons puisqu'il s'agit d'un dossier préparé par Laurent Daube, qui est avec nous également. Et puis vos questions qui nous arrivent nombreuses au 02 737 26 06 ou par courriel tout autre chose @rtbf.be. Alors, pas mal de réactions. Je vais essayer de synthétiser un tout petit peu, notamment sur l'usage immodéré du GSM, dont on a pu constater la réalité il y a quelque temps à peine avec des reportages que l'on a vus en télévision, notamment puisqu'un des opérateurs GSM avait vu son réseau saturé pendant un long moment et à des heures bien particulières. On s'est aperçu en interviewant simplement les utilisateurs de GSM que ceux-ci avaient une utilisation du GSM qui était un petit peu hors du commun. En fait, le GSM était détourné parfois même de son usage premier, puisqu'on s'en servait comme babyphone, par exemple. Une dame expliquait aussi de manière très sereine que 9 à 10 heures de GSM par jour, c'était la moindre des choses pour qu'elle se sente bien dans la journée. Alors ça fait un petit peu peur, effectivement, lorsque l'on parle de ça. Et du coup, beaucoup d'auditeurs réagissent en ce sens en disant, mais mon Dieu, les GSM pour les enfants, est-ce que c'est pas dangereux, tout ça? On en parlait déjà un tout petit peu avec vous, André Van Der Voos. Alors, vous vouliez revenir sur cet aspect de la chose.
Très brièvement. Donc, c'est pour rappeler que lorsqu'on parle d'une norme, d'une valeur maximum, d'une valeur, il faut savoir, ce n'est pas du tout la même chose. si c'est une valeur maximum à ne pas dépasser ou si c'est une valeur moyenne, par exemple, sur 24 heures. Il peut y avoir un facteur 2, 3, 4 à là-dedans. Il y a une autre chose, c'est que il faut, je trouve, que cette valeur soit une valeur qui tienne compte de tout ce qui existe dans toute la bande de fréquence, concrètement de 10 MHz à 10 GHz, au sens de l'arrêté royal.
Ça s'additionne, on peut considérer
On additionne les puissances.
On
parle de champ électrique, on met ça au carré, à une certaine échelle ça fait une puissance, on additionne les puissances, et puis on calcule la racine carrée de ça, et on a le champ qui tient compte de tout, y compris de tout ce qui est à venir, bien sûr.
C'est ça. Donc, si
une
vous
fois
avez...
de plus, il ne s'agit donc bien, on parle de champ électrique, mais cette valeur cumulée de champ électrique résulte exclusivement d'un calcul sur la puissance, c'est-à-dire sur ce qui est absorbé une fois de plus.
Donc si vous avez une installation Wi-Fi pour votre ordinateur, que vous êtes en train d'avoir une conversation au GSM et qu'il y a encore un téléphone sans fil intérieur pas loin de chez vous, dans votre salon, ça commence à faire
beaucoup. Pour le faire parler brièvement, je me tais ensuite. Quelqu'un peut donc se trouver exposé à des niveaux vis-à-vis desquels il n'a rien à dire. Mm-hmm. Il peut éventuellement se blinder en plaçant, on y arrivera peut-être, des fils, des matériaux, des tissus aux fenêtres ou le long du mur. Il est donc soumis à un GSM, éventuellement un autre GSM, des champs de télévision dans plusieurs bandes, des champs de radio FM. Ça, c'est extérieur. Pratiquement, ça lui est imposé, il peut se défendre, se blinder. Mm-hmm. En plus de ça, il peut, ça c'est volontaire, se soumettre lui-même. Et certains ne sont pas sensibles à ça, ne se sont préoccupés pas, d'autres au contraire le font, il peut se soumettre de sa propre initiative à un certain nombre de champs supplémentaires. Par exemple, décider d'utiliser un GSM, éventuellement pendant des heures par jour, nous avons fait des mesures, de toute évidence, rien que du point de vue de l'échauffement, le GSM, il faut l'utiliser pendant 2-3 minutes et s'arrêter. On peut parler d'échauffement du cerveau que nous avons mesuré, disons. Donc on peut décider d'utiliser un GSM, on peut installer une station Wi-Fi dans son logement. Si le plafond n'est pas très épais et ne contient pas de béton armé, ce qui est fort probable dans une habitation normale, la personne au-dessous risque d'y être sensible. Vous pouvez ajouter à ça un téléphone qui n'est plus avec pile, mais qui est avec fil, pardon, qui est un téléphone portable intérieur, un téléphone mobile. Ça c'est du DECT, D-E-C-T, c'est le même système que le GSM, nous avons fait des mesures, vous arrivez à trouver dans une pièce un champ de l'ordre de 3 à 6 volts par mètre, rien que pour le DECT dans la pièce où sont placées la station,
en permanence.
Qui émet en permanence parce qu'elle émet même si on n'a pas décroché le téléphone. Alors ça fait quand même beaucoup, on n'est pas obligé de s'exposer plus qu'il n'est. Que cela n'est imposé par les pouvoirs publics, disons. Ça, c'est une façon de voir. Sinon, on peut se poser des questions et on a des éléments de réponse en disant comment faut-il utiliser tout ça de manière raisonnable.
Jean-Marie Danse, et puis je donnerai la parole à Jean Delcoigne.
Il y a encore un petit détail amusant. On vous dit d'utiliser un téléphone main libre.
Oui.
Et maintenant, on a inventé le système Bluetooth. C'est-à-dire qu'on vous met une oreillette qui émet une onde de 4 GHz, donc 2,4 milliards de Hertz, vers votre téléphone qui est dans votre voiture. Donc vous avez à l'oreille, vous avez cette onde émise par 2,40 en plus de l'onde du GSM. Donc vous voyez des gens qui se promènent en rue avec cette oreillette, sans fil bien sûr, et ils ont une fréquence de plus. Donc au lieu de se protéger, ils rajoutent encore une fréquence à la gamme des fréquences. Maintenant il y a une deuxième chose que je voudrais dire. Dans ce qu'André, pour compléter ce qu'André vient de dire, nous avons été confrontés il y a quelques années dans plusieurs entreprises de Belgique à une maladie qu'on appelle la lipoatrophie semi-circulaire. C'est une maladie qui apparaît, c'est pas une maladie, c'est un élément biologique qui apparaît sur des femmes qui sont occupées à des ordinateurs. Et on a attribué d'abord ça à l'électricité statique, il n'en est rien du tout. Nous avons fait une étude avec un médecin du travail, et quand vous avez des ordinateurs dont les fils sont groupés, c'est-à-dire le fil d'alimentation de l'ordinateur est couplé avec le fil de data, c'est-à-dire le fil de bus, dit vulgairement, quand ces fils sont groupés, même mis à la terre, je dis même mis à la terre, même si la gaine est mise à la terre, vous avez cet effet, une fonte des tissus lipidiques au niveau de la cuisse. Et ça se marque par une rainure dans laquelle vous pouvez mettre un stylo. J'ai vu plus de 500 cas ici en Belgique, et en Allemagne, il y en avait à peu près 300 dans plusieurs entreprises.
C'est général ou quoi ? Parce que moi, j'ai toutes mes copines qui sont penchées sur leur bureau pour essayer de voir si les deux fils sont couplés.
Là. Ah ben justement, le problème est là, il faut découpler les fils.
Ça, c'est...
Ou alors blinder les câbles. Nous avons demandé à une firme que je ne citerai pas ici pour des raisons publicitaires, mais c'est une firme qui s'est penchée sur le problème et qui a créé des câbles blindés électriques et magnétiques justement pour éviter ce phénomène.
Laurent, ne riez pas parce que GSM avec le GSM dans la poche,
oui,
c'est pas très bon. Non,
mais donc c'est là qu'il y a un problème peut-être parce que les tissus lipidiques, donc les tissus, d'ailleurs un monsieur, un français a profité de ça pour créer un bas, une espèce de bas dans lesquels les deux fréquences sont superposées avec des fils de titane et il envoie sur les jambes des femmes des hautes fréquences et des basses fréquences couplées anticellulite. J'ai été interrogé par Science et Avenir à ce propos-là. Je dis là, on va un peu fort et je me demande s'il n'y aura pas des effets secondaires dans les années qui viennent avec ça. Peut-être, qui sait, des cancers de la peau, quelque chose comme ça. D'ailleurs, le médecin du travail qui en Belgique a été confronté, les médecins du travail qui ont été confrontés avec ces problèmes-là, étaient très inquiets pour le futur en disant oui, mais un jour, on va nous reprocher de ne pas avoir fait notre travail de médecin du travail. Or, nous ne connaissons pas ce problème et nous avons montré que c'était la superposition des ondes émises par le câble de data et, or, actuellement, que fait-on ? On est en train d'essayer de faire passer des informations digitales sur les câbles de réseau des maisons. Donc, de faire communiquer les bâtiments entre eux par le système digital. Et là, je pense qu'on prend d'énormes risques. Mettre de la haute fréquence sur de la basse fréquence en voyant ce que ça va donner au point de vue santé, là, il y a des problèmes.
Jean Delcoigne.
Quelques commentaires sur les normes. Je rappellerai qu'en 2000, un nombre important de scientifiques dans la résolution de Salzbourg a préconisé de limiter à une valeur d'intensité du champ électromagnétique qui correspond, pour ne pas changer d'unité de mesure, qui correspond à 6 dixièmes de volt, donc 0,6 volts par mètre, pour tout ce qui est micro-ondes pulsées utilisées par la téléphonie mobile.
Valeur moyenne donc.
Valeur moyenne. Mais dans la même résolution, on parlait d'une valeur qui est 10 fois plus élevée en volts par mètre pour l'ensemble de la gamme des micro-ondes et des ondes radio, donc radiofréquences et micro-ondes. Donc c'était spécifiquement pour les micro-ondes pulsées que ces scientifiques recommandaient 6 dixièmes de volts par mètre et pas mal d'entre eux, si, pour ne pas dire tous, recommandent depuis lors de descendre encore plus bas, de descendre de 10 fois en puissance et en volts par mètre, ça correspond en dessous de 2 dixièmes de volts par mètre. Et je peux affirmer que des électrosensibles que nous connaissons ressentent et ont des problèmes de qualité de vie à des niveaux qui se situent aux environs de 2 dixièmes de volts par mètre, 1 dixième de volts par mètre.
Mais est-ce que la technologie peut encore fonctionner à moins de 0,2 volts par mètre ?
Alors, oui. En ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil qui reçoit les ondes, donc le petit GSM,
oui.
Il a des caractéristiques qui sont définies par un organisme international, un organisme européen qui s'appelle l'ETSI. Et l'ETSI demande que les appareils de téléphonie mobile puissent fonctionner jusqu'à 30 microvolts par mètre, donc 30 millionièmes de volts par mètre, c'est-à-dire 20 000 fois en dessous de la norme de la recommandation des scientifiques à Salzbourg.
En émission.
En réception.
En réception.
Donc, il faut que le petit appareil GSM puisse recevoir des ondes en provenance d'une antenne.
Donc ça signifie qu'il faut plus d'antennes.
Il faut peut-être plus d'antennes. Il faut peut-être diminuer les puissances. Il faudrait peut-être utiliser aussi et préconiser certaines fonctions qui existent en téléphonie. C'est la possibilité, par exemple, quand on est chez soi et qu'on utilise un appareil GSM, on devrait avoir la possibilité, c'est une fonction qui existe, de faire dévier un appel qui est destiné à son GSM vers sa ligne fixe, par exemple. De manière, non seulement pour l'aspect exposition des gens, mais aussi pour l'aspect exposition de l'utilisateur du petit appareil, qui lui est quand même le premier concerné. Donc il pourrait avoir un appel destination GSM qui viendrait sur sa ligne fixe.
Mais plus je vous entends, plus je me dis que l'utilisateur, il a vraiment un rôle à jouer qui est prépondérant, qu'il ne joue absolument pas aujourd'hui dans son utilisation courante et quotidienne de son GSM. Parce qu'on parlait tout à l'heure des enfants à qui on donne un GSM, alors que, visiblement, et même les opérateurs l'indiquent, même si c'est écrit en tout petit, même si c'est en toute dernière page et qu'on n'a déjà pas eu le courage de passer à la page 2, donc imaginez en la dernière page, c'est écrit, les GSM sont déconseillés pour les enfants en
Absolument.
Bas âge. On l'utilisait pendant 9 à 10 heures par jour, c'est une utilisation immodérée. L'utiliser comme un téléphone, c'est totalement immodéré. Et visiblement, l'utilisateur fait un peu n'importe quoi.
Et peut-être que M. Danse pourra confirmer, en Angleterre, on recommande de ne pas donner de GSM en dessous de 9 ans et d'avoir une utilisation modérée en dessous de 15-16 ans. Bon, en ce qui concerne les normes, je voudrais quand même ajouter que la norme belge est une norme complètement laxiste. Et pour imaginer un petit peu, le niveau de cette norme est tel qu'on pourrait vous installer une antenne assez puissante, non pas en haut d'un pylône, mais à votre hauteur, donc au même niveau que votre lieu d'habitat, oui. À une distance de moins de 10 mètres. Ça ne me semble pas être le principe de précaution. Donc c'est une norme absolument contestable.
En région wallonne, la norme est plus sévère.
Non, parce que non. La région wallonne ouvre un grand parapluie, les responsables politiques ouvrent un grand parapluie et disent il y a une norme fédérale et nous n'avons pas de responsabilité. Or, il faut signaler que les pollutions sont des responsabilités de compétences régionales et donc les régions pourraient très bien prendre des mesures pour protéger l'environnement, disons l'environnement, et donc les gens qui vivent dans cet environnement contre la pollution électromagnétique. Mais il est plus facile de dire, on se réfère à l'arrêté royal fédéral et dire voilà, on accorde les permis sur base de l'arrêté royal.
Jean-Marie Danse.
Et une chose que je voudrais dire aussi, je constate dans mon entourage, les gens que je vois, ils suppriment leur téléphone à fil. C'est-à-dire qu'ils disent, ah ben nous n'avons plus besoin de téléphone à fil, nous avons notre téléphone mobile, donc on supprime le téléphone à fil. Ce qui veut dire qu'ils vont téléphoner de l'intérieur de leur maison avec leur téléphone mobile. Vous imaginez la puissance que le téléphone mobile va réclamer pour sortir de la maison. On dit un téléphone mobile adapte sa puissance. Donc le téléphone mobile va adapter sa puissance aux circonstances. Si vous partez d'un parking qui est au premier sous-sol ou au deuxième sous-sol, ben, votre téléphone va peut-être fonctionner. Mais il va émettre une puissance beaucoup plus forte et vous allez être beaucoup plus irradié. Eh bien, les gens, maintenant, ont tendance, et c'est une politique qui est poussée par les opérateurs, c'est de faire abandonner aux gens. Je me souviens que chez nous, on a installé une centrale téléphonique à fil chez nous, et la société de téléphonie a essayé de nous faire installer une centrale de ECT. Et j'ai dit aux employés, j'ai dit non, je ne veux pas de centrale sans fil. Oui, mais pourtant, c'est plus intéressant. J'ai dit non, il a fallu me battre pour avoir une centrale à fil.
Vous vouliez réagir, Monsieur Bonavance?
Préciser, et toujours en restant au niveau des choses que l'on peut mesurer relativement facilement, c'est-à-dire l'échauffement, ce qui ne couvre, à mes yeux, qu'une partie donc du problème.
Donc, c'est fait terminer.
Lorsque au plus, on s'enferme dans une boîte qui se m'a ressemblé à un espace blindé. Au plus, le GSM que l'on tient en main va devoir émettre une puissance élevée. GSM est un système très intelligent, entre guillemets, hein. Il s'adapte de manière à choisir le niveau de puissance nécessaire pour avoir une bonne communication et en principe pas au guère plus. On le voit vraiment, nous avons un oscilloscope qui permet de mesurer sa fréquence extrêmement élevée, c'est vraiment intéressant. Le résultat, c'est qu'il y a toute une série de choses de bon sens que l'utilisateur devrait pratiquer. Ne pas s'obstiner à téléphoner du fond d'une voiture. Ne pas mettre d'abord sa voiture au troisième étage d'un parking souterrain. Ne pas se déplacer. Je parle même pas de conduire en téléphonant, mais ne pas se déplacer. Si vous vous déplacez de façon relativement rapide, par exemple en roulant une voiture, vous quittez une cellule de contrôle pour entrer dans une autre cellule, au moment où vous passez d'une cellule à l'autre, le système GSM vous perd, et pour vous retrouver, il vous envoie une puissance maximale. Quand il vous a trouvé, il est là, et alors il se réduit à nouveau. Il y a toute une série de choses ainsi. Il faut évidemment téléphoner pendant pour moi, un nombre de minutes limité, c'est 2 ou 3 minutes, et c'est vraiment pas plus. Nous avons fait des mesures d'échauffement du visage, moi une caméra infrarouge, on a fait ça au labo chez nous, donc on a été faire des mesures jusqu'à y compris dans la cave d'un bâtiment à Louvain-la-Neuve, dans un bâtiment relativement moderne, construit en 72, avec des colonnes de béton armées. La communication était excellente, mais le niveau de puissance était tel que la face, la température du visage s'élevait de 0,7 degrés centigrades après pratiquement 10 minutes. Pour simplifier les choses, vous avez la température du visage à une certaine valeur, ça augmente de façon à peu près linéaire pendant 10 minutes et puis ça reste là. 0,7 degrés sur un visage refroidi par l'air ambiant, ça vous fait peut-être du 0,8, peut-être du 0,9 dans une partie intérieure qui est du côté du cerveau. Moi, je ne trouve pas ça anodin.
Mais bon. Si on parle beaucoup de l'utilisateur, c'est aussi parce que, comme je le disais en début d'émission, nous n'avons pas d'opérateur GSM et nous n'en avons pas invité dans cette émission parce qu'il aurait fallu tous les inviter. Ils ont tous des politiques quand même relativement différentes, mais d'autre part, l'utilisateur ne peut pas être innocent dans cette histoire non plus, et c'est bien l'utilisateur qui doit faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas rêver, les GSM ne vont pas disparaître. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un moment donné, et on va peut-être parler de l'avenir, Laurent, vous pensez-vous qu'on peut s'attendre à une utilisation modérée de tout ce qui peut être la technologie GSM, parce qu'on ne va pas pouvoir s'en passer?
C'est une bonne question. En tous les cas, il y a un effort de sensibilisation à faire auprès des gens en la matière. On vient d'entendre quelques recommandations à ce niveau-là. Et donc, peut-être qu'une autre question aussi réside dans l'évolution des technologies. On n'a pas beaucoup parlé du réseau, notamment du futur réseau UMTS. Est-ce qu'on peut imaginer que, avec le temps, on puisse là aussi développer des technologies qui nécessitent des puissances moins élevées et qui donc permettent évidemment de réduire les risques?
Oui, je crois. Seulement, nous vivons dans une société qui n'a vraiment pas l'habitude de vivre de façon sobrement. Nous gaspillons de façon extrêmement abondante dans tous les domaines.
Et on nous y encourage.
Je suis tout à fait convaincu qu'en ce qui concerne la pollution électromagnétique, elle ne va vraiment pas diminuer. Ça ne diminuera, me semble-t-il, que contraint et forcé. Et il y a moyen de prendre des mesures, mais on n'est pas prêt de les prendre.
Monsieur Dong.
Vous avez maintenant des sociétés, comme des sociétés de prestataires de services, qui vous mettent à votre disposition des faisceaux hertziens. C'est-à-dire que vous avez un garage, par exemple, vous êtes entrepreneur de je ne sais pas, hein, et vous avez un garage à surveiller. Vous mettez des caméras dans votre garage, votre maison est à 2-3 km, et vous installez sur le toit de votre maison et sur le toit du garage une antenne. Et on va vous donner un réseau, c'est-à-dire qu'on va vous donner une fréquence. Et vous avez un catalogue de fréquences qui est à votre disposition, et vous allez dire, bon, ben moi je choisis la 20 GHz, on va la choisir pour ne pas avoir trop d'interférences avec les réseaux voisins, parce que d'autres peuvent avoir le même réseau. Vous imaginez ce que ça va donner dans l'avenir, ça? Or, c'est pratiquement sans autorisation. C'est-à-dire que pour autant qu'on ne dépasse pas la norme qui est fixée par le pays, eh bien, vous pouvez l'installer. Or, moi je dis qu'on a fixé la norme suffisamment haut, justement pour ne pas que ces gens qui vont vous commercialiser des systèmes, pour que ces gens ne subissent pas de tort commercial, qu'on les laisse faire, qu'on puisse les laisser faire ce qu'on veut. Et ça, c'est très grave, parce que ces catalogues sont à la disposition de tout le monde, et je vois ce système qui se développe de plus en plus, à cause du banditisme, à cause du vandalisme, etc. On voit les gens qui surveillent leurs magasins par des télévisions qui sont reliées à leur habitation, et ils ont un poste de TV qui se déclenche immédiatement dans la chambre à coucher quand il y a une intrusion dans le bâtiment. Et il y a des firmes qui vendent ça. J'ai ces catalogues, je les ai à la maison, je les reçois régulièrement. Voilà.
Pour vous, c'est à étudier un petit peu plus en profondeur avant de le laisser comme ça à disposition?
C'est-à-dire qu'on doit faire attention à toute cette multiplication des ondes. Nous avons une multiplication jusqu'à 30-40 GHz de ces ondes-là qui sont disponibles. Je vous dis, on va avoir des quartiers. Si vous avez un quartier sensible, il y a des chances que ce quartier soit infesté de ce genre de système de contrôle.
Pour donner quelques informations supplémentaires, il y a bien 30 ou 40 ans qu'existent en Belgique des faisceaux hertziens installés par Belgacom qui sont à 40 GHz. Personne ne s'est jamais occupé de ça. Il ne faut même pas oublier qu'on s'occupe de ceci et qu'on se met à parler de pollution des faisceaux de la santé que suite à l'introduction du GSM. Moi, j'ai causé avant ça, pour l'hyperfréquence, le premier que j'ai fait en Belgique, c'était vers 1900. Ben les années 70, disons, je parlais du lapin qui chauffe et des normes différentes du côté russe en disant, ça n'est tout de même pas tout à fait normal. Je dois reconnaître que tout le monde se fichait complètement de cette question à ce moment-là. Le GSM a fait que, probablement parce qu'on s'est mis à voir des antennes apparaissant, des antennes apparaissant, et donc à se dire au fond, c'est vrai qu'il faut s'en préoccuper.
Bon, on arrive à la fin de l'émission, on n'aura pas fait le tour de la question, mais je pense que pendant une heure et demie, on a déprimé tout le monde, que les gens regardent leur GSM avec un air un peu circonspect, en se disant, mon Dieu, ma foi, est-ce que tu ne vas pas me mordre à un moment ou à un autre?
Les factures vont être plus légères le mois prochain.
On n'est pas sûr. J'ai confiance, mais ça n'est pas sûr. Donc, quoi, qu'est-ce qu'on fait? On a paniqué tout le monde pour quoi, là? Finalement, Monsieur Danse.
Je vais rajouter un peu à la panique générale parce que je pense qu'on est passé rapidement sur les effets quand même indésirables de ces téléphones mobiles. Il y a des études suédoises qui ont été faites et qui ont été reproduites à plusieurs reprises. Ce sont les études de l'université de Lund faites par le professeur Salfort et son équipe, et ses équipes, car il a plusieurs équipes, qui montrent qu'il y a une particularité de ces ondes micro-ondes à très bas niveau. C'est le franchissement de la barrière sans cerveau. C'est-à-dire que dans le cerveau, nous avons des capillaires sanguins. Ces capillaires sanguins permettent d'alimenter le cerveau en matière nutritive. Or, ces capillaires ne sont pas les mêmes que ceux du corps. Ce sont des capillaires qui ont un système de commande. Ils ont ce qu'on appelle des mitochondries qui vont commander l'ouverture de ces capillaires. Autour de ces capillaires, il y a des cellules qu'on appelle les astrocytes. Ce sont des cellules qui vont nourrir le cerveau. N'entrent dans le cerveau que des substances nutritives, comme par exemple des phospholipides ou des glucides, qui ne servent qu'à ça, qu'à nourrir le cerveau. Le cerveau n'a pas de tube digestif. Or, on constate que quand on met pendant 2 heures un téléphone mobile sur des cages à rats, eh bien, on constate que pendant 8 semaines, donc 2 heures de téléphonie mobile, pendant 8 semaines, ces canaux vont rester ouverts et il va entrer des substances toxiques dans le cerveau, comme de l'albumine, par exemple, qui ne peut pas entrer dans le cerveau. Ce qui veut dire, dit le professeur Salfort, que dans les années qui viennent, nous n'allons pas nécessairement avoir des cancers, mais nous allons peut-être avoir des maladies dégénératives de certains endroits du cerveau, en profondeur, à cause de l'entrée dans le cerveau de substances qui vont aller détruire lentement mais sûrement le cerveau. On voit d'ailleurs ces destructions au microscope. Au bout de 2 heures et au bout de 8 semaines, on voit que l'évolution a continué. Donc après 2 heures d'exposition, on voit qu'il y a évolution du système. C'est très grave, ça.
Un maximum d'informations sur le site teslabel.be, sur lequel vous retrouverez aussi, bien sûr, pourquoi cette association se bat, pour quelles raisons. Vous y trouverez aussi, certainement, si vous êtes électrosensible, une écoute attentive. Je vous promets peut-être qu'on refera d'ailleurs une émission sur l'électrosensibilité, parce que c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur et avec lequel vous avez l'impression qu'on ne se pose pas assez de questions. Laurent, le mot de la fin, c'est vache, hein, ce que je fais là.
Mais... Oui, très vache, mais le mot de la fin, simplement, je pense qu'on a bien compris ici qu'il y avait évidemment une part de responsabilité importante dans le chef de chaque utilisateur. Donc, consommons une fois de plus, consommons avec modération cet outil qui est un bel outil par ailleurs, mm-hmm. qui est le GSM, mais dont il ne faut évidemment pas abuser.
Mm-hmm. On se retrouve dans quelques semaines, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition et un nouveau dossier préparé par vos soins. Je remercie tous mes invités qui sont très frustrés, tous les uns des plus que les autres, de ne pas avoir pu tout aborder, mais ça nous donnera peut-être l'occasion de revenir sur certains aspects. C'est vrai que vous vouliez parler des assurances et des assureurs qui n'assurent pas les risques liés au GSM et bien d'autres. D'ailleurs, j'ai été surprise de voir la liste. Il y a beaucoup de choses qui sont exclues des assurances et notamment donc les risques liés à l'utilisation du GSM et aux antennes GSM. C'est toujours bon à savoir pour se faire sa propre opinion. Merci à tous donc et place au classique des classiques avec Nicolas Blanc-Mont d'ici quelques instants. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous demain. Nous parlerons des créances alimentaires. Merci, merci beaucoup, beaucoup Laurent pour ce dossier fabuleusement préparé.
Merci à vous Véronique.
Et à bientôt.